Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, bienvenue dans mon jardin à vivre dans 46 lieux en Ille-et-Vilaine. Interview avec le rectorat de l'Académie de Rennes et puis l'association Contact qui lance un observatoire de prévention et de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage avec les ASEM de Rennes en grève tout le mois de juin contre la suppression d'un pool de remplacement. Et puis deux recommandations de sortie pour le week-end. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive l'arène!
Vive l'arène!
Allez, on commence avec l'info du jour. La 11e édition de l'opération Bienvenue dans mon jardin à l'échelle nationale dans la région Bretagne. 10 opérations ont eu lieu depuis 2004 avec un total de 323 000 visiteurs. À l'échelle du département, c'est la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes qui pilote l'événement. Ça se passe tous les deux ans. Rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 juin dans 46 lieux en Ille-et-Vilaine pour franchir les portes de jardins entretenus au naturel. L'occasion de découvrir des solutions pour entretenir son espace sans désherbant, accueillir la biodiversité, gérer les déchets verts ou encore économiser l'eau. Ces rendez-vous, ils sont gratuits, animés par des amateurs et des acteurs associatifs passionnés. Toutes les informations sont à retrouver en ligne sur le site bienvenuedansmonjardinbretagne.org. Et parmi les participants à Rennes, on retrouvera l'association Vers le Jardin qui nous présentait son hangar et ses actions dans un reportage au printemps 2021. Souvenez-vous, et après ça, on passe à une interview.
Alors du coup, ici, on est au hangar de Vers le Jardin. Donc c'est un grand hangar qu'on partage avec plusieurs assos. Et nous, on a le bout où on a nos bureaux. On est les seuls à avoir les bureaux ici. Et devant, du coup, on a un grand terrain qui fait à peu près 2000 mètres carrés. Et du coup, c'est une ancienne scierie ici. Et on est arrivé depuis 4 ans, petit à petit, avec les bénévoles, en fait. On aménage les lieux. Bonjour, alors moi c'est Lisa Pierre, du coup je suis animatrice chargée de projet à l'association Vers le Jardin. Alors nous Vers le Jardin, donc c'est une association régionale, donc il y a des antennes dans les différents départements bretons, donc nous on est sur l'antenne de 35. Donc à l'asso, bah, on a plusieurs actions en fait, donc le compostage, donc l'accompagnement des aires de compost partagées. On fait aussi toute une partie sur la sensibilisation, l'information sur la valorisation des végétaux. Et puis on a aussi tout un pan pour accompagner les jardins partagés. On fait aussi plein d'ateliers de bricolage autour de ces thématiques-là, jardinage, compostage. Donc il y a des animations le mercredi après-midi et vendredi après-midi, voilà, ouvert à tout le monde.
Laetitia Véras et Sébastien Pommier, bonjour.
Bonjour. Bonjour,
je vous présente Laetitia Véras, vous êtes conseillère du recteur de l'Académie de Rennes sur le sujet de l'égalité filles-garçons, également chargée de mission à la Direction régionale académique de l'information et de l'orientation. Sébastien, vous êtes membre de l'association Contact en Ille-et-Vilaine où vous êtes bénévole et ensemble on annonce le lancement d'un observatoire de prévention et de lutte contre les discriminations LGBT+, dans la région. On rappelle que le rectorat, c'est la Direction des services de l'éducation nationale à l'échelon de l'Académie. Ça veut dire que le rectorat dépend de l'État et puis applique les politiques liées à l'éducation nationale. L'Académie de Rennes, elle couvre l'ensemble de la région Bretagne. Ça fait beaucoup d'élèves, ça? Combien à peu près, Laetitia Véras?
Alors approximativement, on a 600 000 élèves et 42 000 enseignants, enseignantes.
Donc de l'élémentaire jusqu'à même après le lycée?
Alors là, on est sur les chiffres jusqu'au bac.
Jusqu'au bac. On se retrouve quelques semaines après la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'était le 17 mai dernier, un moment durant lequel a été lancé donc un observatoire de prévention et de lutte contre les discriminations LGBT+. On le redit, LGBT pour lesbienne, gay, bi, trans et puis le plus pour ajouter derrière d'autres identités, notamment queer et intersexe. Cet organe, là, cet observatoire, il existait déjà ailleurs ou il a été lancé conjointement dans différents endroits de France? C'est quoi le contexte autour de ça?
Alors l'observatoire existait dans quelques académies qui étaient un peu pilotes, hein. Il y avait 3-4 académies qui étaient pilotes sur ces questions, enfin en tout cas sur l'observatoire. Et puis nous on s'était dit cette année, en début d'année, qu'on souhaitait mieux articuler notre action et donc monter aussi également un observatoire, voilà, qui était un organe qui permettait de faire un peu le point sur la lutte contre les discriminations LGBT dans l'académie. Et cette année, il y a eu une demande particulière aussi du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, pour que chaque académie se dote d'un observatoire. Et donc, on voit bien au fur et à mesure de l'année scolaire que nous avons été plusieurs à nous saisir de cette demande.
Observatoire qui en fait s'inscrit dans un plan national d'action pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, sur la période 2000-2023 qui est donc en cours. On va commencer par parler de ce qui a motivé le lancement de cet observatoire. Les discriminations contre les personnes LGBT+, elles sont partout dans notre société aujourd'hui. Une société que je me permets de qualifier d'hétéronormée. Comment est-ce qu'elles se matérialisent, ces discriminations à l'école, sous plusieurs formes? Je commence peut-être par vous laisser dire un mot, Laetitia, à ce sujet.
Alors, comment elle se matérialise? Elle se matérialise au quotidien, déjà, hein, par des mots échangés entre élèves. Et dans ses formes les plus graves, c'est évidemment le harcèlement scolaire. Voilà, qui peut être effectivement les questions LGBT+, sont souvent à l'origine du harcèlement scolaire.
Harcèlement scolaire, je pense qu'il a toujours existé, mais aujourd'hui, un sujet de plus en plus brûlant, qui a la particularité d'être médiatisé, ce qui n'était pas le cas avant. On en profite pour redonner le numéro des deux plateformes qui existent pour signaler un cas de harcèlement scolaire si on en est victime.
Oui, absolument. Donc il existe effectivement deux plateformes qu'il ne faut pas hésiter à contacter au besoin. Donc le 30-20 pour signaler un cas de harcèlement et le 30-18 un cas de cyberharcèlement, puisque évidemment ce qui se passe sur les réseaux sociaux est aussi très préoccupant et aussi très problématique. Ne pas hésiter vraiment à contacter ces plateformes.
Pour essayer un peu de chiffrer là, ce sujet, ce problème des discriminations contre les personnes LGBT+, j'ai regardé un petit peu en ligne ce qu'il existait comme chiffre. J'ai trouvé en fait un état des lieux avec des recommandations du côté de l'éducation nationale qui remontait à 2013, c'était donc il y a 10 ans. Il est là aussi le problème qui motive le lancement de cet observatoire, c'est qu'on a peu de chiffres aujourd'hui, des ressentis. J'imagine que vous avez des remontées d'élèves, d'enseignants, mais peu de chiffres.
Alors nous, à l'échelle académique, en tout cas pour l'instant, on n'a pas recensé ces chiffres. Enfin moi, en tout cas, ce ne sont pas des données que j'ai pu encore observer. Alors on a quand même les données publiées par les associations, hein, qui sont partenaires de l'éducation nationale et qui sont précieuses pour nous, parce que évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école subit effectivement ce qui se passe aussi dans la société. Donc les chiffres qui sont notamment publiés par SOS Homophobie, là, le 16 mai d'ailleurs, de mémoire, font écho évidemment à la situation de l'école. Et comme ce sont nos partenaires qui sont agréés par l'éducation nationale, on se réfère aussi à ces données. Et puis cet observatoire va permettre justement de recenser, grâce à des outils qui existent déjà, mais va permettre de nous donner un aperçu plus réel de la situation dans nos établissements scolaires et surtout de l'évolution sur plusieurs années, qu'on souhaite évidemment favorable, pour mieux adapter notre accompagnement au quotidien.
Si je reprends le dernier état des lieux donc, qui date d'il y a 10 ans, je pense que les choses ont peu changé. Sur les manifestations de l'homophobie, ça allait de l'insulte au coup, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour les jeunes qui vont de l'isolement jusqu'à des cas de suicide. Je me tourne vers l'association Contact qui est avec nous pour continuer sur ce sujet. Association que moi je ne connaissais pas, votre mission c'est de nouer ou de renouer le dialogue entre les personnes LGBT+, et leurs familles, leurs proches. J'ai bien résumé.
Oui, c'est ça. L'association a été créée au plan national il y a 30 ans par des parents d'homosexuels, parce qu'à l'époque, les parents aussi étaient seuls face au coming out de leur enfant. Et se rendre compte qu'on n'est pas seul, que ça ne nous arrive pas qu'à nous et qu'on n'a pas de chance et que ça va être difficile, ça a été un réconfort et l'association existe toujours. Elle est ouverte aujourd'hui à la question de l'homosexualité, d'autres minorités sexuelles et de la transidentité, avec des parents qui viennent avec leurs enfants, parfois sans leurs enfants, les enfants qui viennent parfois sans leurs parents. Et nous nous retrouvons donc pour des groupes d'écoute et de parole. Et nous réalisons également, grâce à l'agrément de l'éducation nationale, des interventions en milieu scolaire pour prévenir les discriminations anti-LGBT.
Il y a combien de personnes dans les équipes aujourd'hui pour faire vivre ce projet ?
Alors, à Contact Ille-et-Vilaine, nous sommes heureux d'avoir, à la dernière Assemblée Générale, pu augmenter notre conseil d'administration. Nous avons 8 personnes, 8 bénévoles dans le conseil d'administration, dont 5 parents et un papa, je le précise, parce que ce sont souvent les mamans qui s'engagent. Et il y a 3 personnes LGBT qui participent également à ce conseil d'administration. C'est une vraie montée en puissance pour le département, parce que il a fallu un petit temps de latence où nous avons porté un peu plus en solitaire cette association.
Donc vous organisez entre autres des groupes de parole, et pour ça vous bénéficiez du local du centre LGBTQI+, ISKIS, qui est bien connu à Rennes, c'est dans le quartier Saint-Martin, c'est là que vous êtes, qu'on vous retrouve.
Nous réunissons une fois par trimestre, 4 à 6 fois par an exactement. L'année dernière, en 2022, année civile, nous avons accueilli 103 personnes dans ces 6 réunions. Et puis, en dehors des réunions, nous pouvons également faire de l'accueil individuel. Donc, il y a un mailing, simplement. Et puis, l'association, au plan national, dispose également d'une ligne d'écoute et d'un forum qui permettent, lorsque le prochain groupe d'écoute et de parole dans sa région est un peu trop éloigné dans le calendrier, d'avoir quand même un bénévole formé à l'écoute qui va vous répondre et vous permettre d'entendre ce que vous avez sur vous à ce moment-là et ce qui a motivé votre appel.
Le public que vous accompagnez, Sébastien Pommier, donc avec l'association Contact en Ille-et-Vilaine, que ce soit les parents, les enfants de ces parents, est-ce que c'est quelque chose de régulier qu'on vienne vous confier des faits de discrimination vécus en milieu scolaire, que ce soit dans le passé ou encore aujourd'hui? Quelle forme ça prend?
Alors, sur le public que l'on accueille en groupe d'écoute et de parole, la question des discriminations scolaires qui nous remonte le plus, c'est la situation de l'accueil des enfants transgenres. Ce sont des questions de discrimination qui sont liées à la possibilité ou pas de faire le coming out dans le milieu scolaire, à la compréhension des équipes éducatives et para-éducatives dans l'établissement. La question, après, très très techniquement, très prosaïquement, de quel WC l'enfant va utiliser, quel vestiaire de sport. Par exemple, parmi les personnes qui viennent régulièrement dans nos groupes d'écoute et de parole, des élèves qui sont encore lycéens ou lycéennes, beaucoup ont subi une période parfois courte, parfois plus prolongée de déscolarisation, et un retour dans la scolarisation qui est assez souvent encore partiel, puisque des dispenses pour le sport sont encore le modus vivendi, encore assez fréquent, et ça c'est effectivement une discrimination aussi.
Si aujourd'hui la question trans, des personnes trans bloque, est-ce qu'on peut dire que sur les coming out lesbiens, gays, c'est plus facile aujourd'hui de le faire quand on est un jeune dans son école qui a 10, 20 ans? Moi j'ai le souvenir au lycée, fin des années 2000, ça n'existait pas en fait les coming out, c'est le souvenir en tout cas que moi j'en garde sur ma situation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile?
Alors c'est effectivement une impression qu'on peut avoir. Il reste aussi que les insultes les plus fréquentes dans les cours de lycée, les cours de collège, sont aussi des insultes à caractère homophobe.
Ce sont toujours les mêmes.
Voilà, et lorsque l'on intervient auprès des élèves dans les interventions en milieu scolaire, on intervient aussi sur ces sujets-là. Effectivement, un PD lancé dans une cour de récré, on sait très bien que ça ne veut pas dire ce que ça désigne, mais cela crée aussi, à tout bout de champ, un climat d'insécurité pour les élèves LGBT qui va effectivement créer du mal-être et forcément avoir des conséquences qui peuvent être parfois très, très graves. Et là, c'est juste quand c'est une insulte comme ça. L'homophobie peut aussi, la lesbophobie vont aussi pouvoir prendre des aspects beaucoup plus graves. Le rôle des réseaux sociaux est quand même déterminant. L'anonymat que cela permet est quand même un facteur très très favorable à un harcèlement très très grave.
Puisque c'est la particularité aujourd'hui, c'est que le harcèlement il se poursuit hors des murs de l'école sur les réseaux sociaux. On arrive à cet observatoire de prévention et de lutte contre les discriminations LGBT+, qui a donc été lancé mi-mai. Ça s'est passé lors d'un moment un peu officiel dans le lycée Sévigné, juste à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. Quelles équipes vont le faire vivre? On parle d'une équipe de 30 personnes avec des casquettes très différentes, Laetitia Véras.
Oui, absolument. Alors, je voulais juste quand même préciser qu'avec cet observatoire, on est quand même au cœur des missions de l'école. Je trouvais important de rappeler que notre mission, c'est bien de placer tous les élèves dans les meilleures conditions de vie individuelles et collectives dans nos établissements scolaires pour leur permettre de réussir puis de s'insérer professionnellement. Donc, à partir du moment où on souffre de discrimination, quelle que soit l'origine, on est bien au cœur des missions de l'école. Voilà, ça me permet de le dire et ça me paraît essentiel. Alors, la composition, effectivement, la composition était libre, hein, ça n'émane pas du ministère de l'Éducation nationale. Chaque académie a sa part d'autonomie, donc on a réfléchi à cette composition. On a d'abord décidé d'avoir un comité de pilotage de 7 personnes, puis d'élargir un observatoire d'environ effectivement 30 personnes. Et la question, c'était de pouvoir, au sein de cet observatoire, avoir le plus de catégories de nos partenaires, puisque nous avons aussi des parents, des élèves, l'association Contact, effectivement, que nous avons invité à participer à cet observatoire, et puis des fonctions différentes dans les établissements scolaires, donc des chefs d'établissement, des CPE, des enseignants-enseignantes. On a les personnels qui coordonnent des missions au rectorat, donc l'infirmière conseillère technique du recteur, qui a un rôle sur l'académie, de même que le médecin scolaire. Voilà, on a essayé d'avoir vraiment tous les corps représentés, des gens de terrain, des gens un peu plus en retrait et plus au niveau du rectorat, pour apporter une réponse au plus près des besoins identifiés sur le terrain.
Cet observatoire, il se réunira plusieurs fois par an à partir du mois de septembre, là, à la rentrée 2023. Concrètement, qu'est-ce qui va être mis en place? On peut résumer en disant chiffrer et accompagner.
Oui, on pourrait résumer comme ça, effectivement, recenser, voilà, pour être sûr qu'on mesure bien l'ampleur de la situation, et surtout ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est de voir évoluer les choses, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Accompagner, c'est sûr, voilà. L'accompagnement, il existe déjà dans l'académie, on parlait tout de suite des élèves en transition de genre. En 2020, le groupe académique d'éducation à la sexualité avait déjà rédigé des fiches distribuées dans les établissements scolaires pour mieux accompagner les élèves en transition de genre. Au mois de janvier, on a fait un webinaire de formation sur cette question. Voilà, il y a toujours eu des collègues qui étaient ressources auprès des établissements scolaires pour ces questions-là, et depuis de nombreuses années, évidemment. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un organe qui va se réunir effectivement 2 ou 3 fois par an, le COPIL bien plus souvent, et d'observer, observatoire, ce qui se passe dans les établissements et de s'assurer qu'on y apporte une réponse rapide et optimale.
Est-ce qu'en cas de signalement de faits de discrimination qui peuvent aller jusqu'à des violences verbales ou physiques contre des personnes LGBT+, est-ce que c'est aussi le rôle du rectorat d'accompagner vers des dépôts de plainte?
Alors le premier rôle du rectorat, j'ai envie de dire, c'est d'accompagner les établissements qui sont eux en première ligne. Ce sont bien les établissements qui accompagnent ça au quotidien et voilà, qui sont d'ailleurs très investis sur ces questions, très soucieux du bien-être des élèves et qui souvent nous interrogent pour avoir des conseils, mais finalement ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est déjà très pertinent, ils sont déjà très vigilantes. Ensuite, il peut y avoir effectivement des dépôts de plainte, hein, c'est complémentaire de ce qui va se passer en établissement, et là aussi l'établissement scolaire a un rôle de conseil, mais la décision finale appartient aux élèves victimes et aux parents de ces élèves victimes. Ensuite, il y a le champ des ressources humaines, c'est quelque chose aussi qui me semble important. On a souhaité que cet observatoire s'intéresse aussi à nos personnels, puisque évidemment que nous pouvons avoir des personnels qui sont aussi concernés par ce genre de discrimination. Donc là, évidemment, le rectorat a un rôle d'accompagnement qui peut parfois aller jusqu'au dépôt de plainte, effectivement.
Et au-delà du personnel qui pourrait être concerné par des faits de discrimination, on pense aussi aux enseignants qui sont face aux élèves, qui ne sont pas forcément tous sensibilisés aux questions d'identité de genre, de sexualité. C'est aussi de les former à ces questions-là.
Alors l'Observatoire va avoir aussi effectivement cette mission-là. Donc on a commencé, hein, déjà, on a un plan académique de formation voilà, dans les rectorats, et donc on a inscrit cette question dans ce plan de formation. Là aussi, hein, les formations ont déjà commencé. On a dans les établissements scolaires aussi des référents, référentes égalité filles-garçons. Dans l'Académie de Rennes, c'est assez remarquable puisqu'on a plus de 9 établissements sur 10 qui s'en sont dotés dans l'enseignement public. Donc ces référents ont des formations. Et puis on a aussi le pôle académique d'éducation à la sexualité. Là aussi, on a un pôle de formateurs, formatrices qui vont dispenser des formations dans les établissements scolaires. Et cet axe, évidemment, fait partie des contenus de formation.
La question que je me posais, c'est est-ce qu'au-delà de ces outils, on a déjà vu qu'il y en avait déjà d'autres outils qui existaient, comme ces plateformes de signalement, stop harcèlement, est-ce qu'il n'y a pas un coup d'accélérateur à mettre justement sur les, l'éducation à la vie affective, à la vie sexuelle, qui est obligatoire de l'élémentaire jusqu'au lycée. Assez récemment, au printemps, il y a trois associations bien connues, dont SOS Homophobie, qu'on a déjà cité durant l'échange, qui ont attaqué l'État parce que l'obligation des trois cours obligatoires par an n'est pas tenue. Je crois que c'est 15% peut-être des élèves qui vraiment assistent à ces cours-là. Est-ce que là, il n'y a pas une obligation justement qui n'est pas tenue et sur laquelle il faut travailler ?
On peut mieux faire, effectivement. On peut mieux faire. Après, il y a quand même une vraie difficulté aussi de recenser ce qui se fait réellement dans les établissements scolaires. L'éducation à la sexualité, c'est un champ vaste. Il faut prendre le temps d'aller regarder ce qu'on entend par éducation à la sexualité. Et vraiment, on est dans la relation aux autres, la découverte de soi et des autres, et on est dans le vivre ensemble. Globalement, s'il fallait raccourcir, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, pour raccourcir. Donc, quand on fait des séances, comme il a été évoqué tout à l'heure, autour des injures, quelque chose que moi, je recommande de faire dans les établissements scolaires, on est déjà dans de l'éducation à la sexualité. Quand on va traiter d'une situation particulière opérée dans un établissement en heure de vie de classe, on est aussi dans l'éducation à la sexualité. Alors il y a beaucoup de choses qui contribuent à dispenser cette éducation. Effectivement, s'il s'agit d'avoir un plan d'action identifié des trois séances par an, par niveau de classe, les établissements scolaires ne sont pas toujours en mesure de fournir ce plan d'action. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas le reflet, à mon sens, de ce qui se fait réellement en établissement scolaire et au quotidien. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, il faut qu'on accentue les efforts portés à cette question, mais je crois que les choses, elles sont quand même bien engagées. Il y a une dynamique vraiment intéressante dans l'académie. Beaucoup d'établissements, quand on propose les formations, qui se portent volontaires pour accueillir ces formations et former leur personnel. Donc moi, je suis plutôt très optimiste pour la suite.
Je ne sais pas si moi j'irai jusque-là, mais du coup j'entends votre parole. La dernière question pour vous, Sébastien Pommier, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin
Non, je comprends d'autant plus la difficulté parfois de mobiliser les établissements. On le voit quand on discute avec eux pour fixer ne serait-ce qu'un calendrier d'intervention en milieu scolaire. Il faut faire des demi-groupes, il faut que ce soit compatible avec un emploi du temps qui est qui n'est pas simple à gérer. Donc nous, on est toujours très heureux d'aller participer aux interventions dans les établissements qui nous convient. Je pense que c'est effectivement une chose importante. Je me permettrai de compléter ce que disait Madame Verras tout de suite, c'est que la discrimination, c'est la résultante des préjugés, et la préjugée, c'est toujours à côté de l'ignorance. Et donc apprendre à l'école, c'est forcément lutter contre ces préjugés et leurs manifestations concrètes qui sont les discriminations. Donc il ne devrait pas y avoir de sujet sur le fait que l'école est dans son bon droit, dans sa mission première et authentique à permettre ses interventions, à permettre ses campagnes de sensibilisation.
Je vous représente tous les deux, Laetitia Verras, vous êtes conseillère du recteur de l'Académie de Rennes sur ce gros sujet de l'égalité filles-garçons, et Sébastien Pommier, vous êtes membre de l'association Contact en Ille-et-Vilaine. Ensemble, on a donc pu annoncer le lancement de cet observatoire de prévention et de lutte des discriminations LGBT+, dans l'Académie de Rennes. Pour plus d'infos, il y a toujours le site internet ac-rennes.fr qui, a priori, va être amené à être développé pour justement présenter ce champ d'action. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Prisoner of famous parents, assisted recognition, legacy of class imposters, baritone chancers, gangsters' fantasies, human Jenga, fragile man, sharp heads in basements enjoying tragedy. Economy, poets, Rasputin, the dribblers, the vanity soldiers, the casual gender flexible encounters, the promises of modern love. Free the people's land, etc.
There's a couple people that prefer you in France, with tired eyes and stunning you once they say you're a modern Gainsbourg. Out of tune and absurd, but no one will get over that you're someone's son. Even though you want to be like Frank Ocean, but you don't sound like him, you sound just like him.
Thank you.
Pierre Dury et le morceau Shadow, c'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur Yann, à retrouver sur l'album I Thought I Was Better Than You. C'est sorti le 2 juin chez Pias. Et c'est le 7e album studio pour ce musicien et chanteur britannique. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être branché en ligne sur canalb.fr. On passe au reportage du jour. Un reportage réalisé place de la mairie jeudi 8 juin où sur les coups de 17h, environ 150 personnes étaient réunies dans le cadre du mouvement de grève des ASEM qui dure depuis une semaine et se poursuivra jusqu'aux vacances d'été. Les ASEM, ce sont les agents spécialisés des écoles maternelles remontés aujourd'hui contre l'annonce de la suppression de leur pool de remplacement pour des absences de courte durée. Ces professionnels bénéficient du soutien d'une intersyndicale dans ce mouvement et une nouvelle action d'interpellation est déjà prévu, ça se passera lundi sous forme de concert de casseroles devant l'Antipode où la maire de Rennes sera en déplacement. Allez, reportage.
Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est grâce à votre mobilisation, parce que vous êtes venus nombreux, nombreuses, à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale CFDT, FO, CGT et son UGICT, Sud Solidaire et l'UNSA. Vous avez mobilisé toute une intersyndicale complète et vous êtes venus, vous avez répondu présent, présente, dans la rue, et c'est grâce à ça aussi qu'ils ont plié sur des revendications. Et ça, c'est important, et c'est à saluer votre mobilisation. Parce que sans le nombre, on n'y serait pas là aujourd'hui.
Donc là, on est à la mairie par rapport à la mobilisation des ASEM et le redéploiement ou la suppression du pool. Enfin, c'est un peu un jeu de mots, mais c'est la même chose. Et donc là, ce midi, on a eu des négociations avec les élus et puis l'intersyndicale et l'administration. Et donc là, on est là pour leur faire la restitution des négociations. Bonjour, moi je suis Elodie Lesdema, je suis déléguée au syndicat Sud et sinon je fais partie du service que les ASEM...
Dont les ASEM font partie.
Voilà, c'est ça. Service Direction Éducation Enfance.
Pour dire ce que c'est les ASEM aux auditeurs et leur rôle dans une école.
Eh bien alors les ASEM en fait c'est celles qui vont suivre les enfants tout au long de la journée. C'est celles qui vont faire le fil conducteur de la journée. Elles sont là le matin à la garderie dès 7h30. Ensuite dans les classes présentes avec les enfants pour le bien-être, le suivi pédagogique, le côté affectif avec les enfants, l'échange. Elles sont là aussi sur le temps du midi, elles sont là pour la sieste, pour les activités de l'après-midi. Et pareil, c'est elles qui les emmènent le soir dans les classes. Donc en fait elles sont là en continuité et c'est elles qui ont le plus de regard sur toute la journée et l'ensemble de la journée des enfants. Et en fait, elles sont très importantes dans les écoles. C'est un métier essentiel et c'est un métier qui n'est pas assez valorisé.
Ce qui était annoncé, c'était donc la suppression de ce pool de remplacement avec 15 ASEM qui interviennent en école maternelle. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses. Ce pool, il devait être supprimé. Pas de suppression de poste. Les 15 ASEM devaient être redéployés à la place de personnes qui étaient en contrat. Vous allez me dire le nom du contrat.
C'est quoi? Alors en fait c'est un peu de l'insertion quoi, et donc en fait auparavant, donc encore à l'heure actuelle d'ailleurs, les CUI elles gèrent à elles toutes seules une classe, sauf qu'en fait c'est pas normal de faire ça, et donc du coup l'année prochaine elles seront dans une classe mais en renfort avec une ASEM qui pourra là vraiment la former et puis voilà lui apprendre le métier d'ASEM.
Sur des écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire, ce que j'ai pas bien compris c'est, parce qu'il y a un problème avec les remplacements en fait, qui va faire le travail de ces 15 agents qui étaient dans le pool de remplacement. Est-ce que ça, vous pouvez essayer de me l'expliquer?
Oui. Alors, en fait, les ASEM qui sont itinérantes, on appelle ça itinérantes à l'heure actuelle, vont être redéployées, donc, effectivement, dans les classes où les CUI étaient. Et aussi, on a des écoles qu'on dit orphelines, en fait, où il n'y a pas autant d'ASEM que de classes. La ville a pour projet de mettre dans les écoles un dispositif d'autant d'ASEM que de classes. Donc, en fait, les ASEM du pool itinérant à l'heure actuelle vont être déployés sur toutes ces classes-là. Ce qui fait que, du coup, effectivement, ça renforce les écoles et pour les CUI, effectivement, c'est une meilleure prise en charge, mais ça veut dire que les ASEM vont devoir être amenées, elles, à se remplacer les unes entre les autres. Ce qui était d'actualité il y a encore une semaine ne l'est plus parce qu'elles devaient aussi, c'était en projet, qu'elles devaient se remplacer d'école en école. Donc là, effectivement, du coup, elles redevenaient toutes itinérantes. itinérante, alors que maintenant, depuis la réunion de ce midi, c'est acté, c'est terminé, elles se remplaceront dans l'école, au sein de l'école, mais ça n'empêche pas que, voilà, du coup, elles seront obligées de, des fois, quitter leur classe.
Avec un enseignant qui sera donc sans ASEM à certains moments.
Sans ASEM, mais alors, du coup, pour être objectif et pas donner d'avis sur ça, les ASEM, déjà, à l'heure actuelle, de toute façon, elles se remplacent de classe en classe. Donc, en fait, l'année prochaine, du fait que, alors, soit on dit suppression de poules, soit on dit redéploiement du pool dans les écoles en renfort, vu qu'il n'y aura plus de poules de remplacement, elles se remplaceront elles-mêmes, mais au sein de l'école. Donc, en fait, ça ne changera pas énormément de ce qui se passe cette année, mais du coup, ça rendra les choses officielles. Il n'y aura plus de poules. Alors, du coup, là, on va les questionner sur le fait, est-ce qu'elles veulent aller plus loin et qu'on continue dans les négociations à demander un budget plus conséquent au service de la D2E pour pouvoir recruter encore des ASEM, ou est-ce qu'elles sont satisfaites de ce qu'on a obtenu et puis voilà, on en reste là. Voilà l'objectif du rassemblement de ce soir.
L'engagement qui a été pris également de faire un bilan dès le mois de décembre de cette organisation, de toute façon qui passera, faut pas se rêver, c'est dans les tuyaux, je crois qu'on va pas vous mentir là-dessus, ce serait dommage, on ne doit pas vous mentir. Attendez, on va vous passer la parole. Attendez, on n'a pas fini. Donc, ce qui a été dit, l'engagement qui a été pris, c'est de faire un bilan à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et de corriger au fur et à mesure s'il y a besoin. Donc, on verra. Mais voilà les engagements qui ont été pris. La dernière chose également qui a été réclamée, c'est la reconnaissance de votre métier.
Combien de temps ont duré les négociations et vous avez gagné quoi? Parce qu'il y a eu plusieurs points d'annoncer là.
Alors, les négociations de ce midi, elles ont dû durer à peu près une heure. Et alors, ce qu'on a obtenu, c'est que déjà, les remplacements qu'on dit longs étaient prévus à 4 semaines pour un remplacement fixe. Du coup, là, on les a rabaissés à 3 semaines, ce qui n'est pas encore ouf. Et il y a aussi, elles n'ont plus remplacé dans les autres écoles, elles resteront bien fixes sur les écoles avec d'autres moyens pour pouvoir les pallier au manque de personnel dans les écoles, comme par exemple des embauches de contrat, ce qui était prévu. Mais ce qui était prévu au bout du bout, s'ils n'y arrivaient pas, en fait, c'était de faire appel à l'association intérim Starter. Et là, du coup, c'est plus d'actualité, ce sera les vacataires qui travaillent déjà dans les écoles maternelles sur le temps du midi qui iront pallier à ce manque de personnel et d'ASEM dans l'école. Donc ça, voilà, c'est quand même une belle chose pour elles, puisque du coup, elles auront plus cette anxiété de devoir quitter leur école au jour le jour. Et ce qui va être mis aussi à l'ordre du jour du dialogue social, c'est la suggestion pour les CEI, parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, celles qui vont être maîtres d'apprentissage vont avoir une suggestion d'une 90 d'euros à peu près, alors que les CEI, celles qui formaient les CEI n'avaient rien du tout. Donc là, du coup, on a réussi à mettre ça à l'ordre du jour pour négocier ça lors du dialogue social.
Là, c'est un moment où donc vous transmettez l'information aux ASEM qui sont présentes. Il y a aussi des parents d'élèves avec la question qui va se poser de est-ce qu'on va plus loin dans les négociations. Un mot sur la mobilisation. Est-ce que c'est rare de voir cette profession mobilisée? Et puis dans cette ampleur-là, il y a quand même, je ne sais pas combien il y a de personnes là ce soir, plus d'une centaine, je pense, qui sont rassemblées sur la place de la mairie. Et puis surtout, le mouvement, il est annoncé jusqu'aux vacances d'été.
Ouais. Oui, c'est quelque chose de rare, enfin, surtout en plus dans notre service. C'est une belle mobilisation, et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir que, surtout pour les ASEM, de voir que les parents d'élèves les soutiennent dans leur mouvement, c'est un vrai bonheur, enfin bonheur pour elles entre guillemets, mais voilà, elles se sentent soulagées, parce que je discutais tout à l'heure avec une ASEM qui disait que elle avait une maman qui était en larmes parce qu'elle soutient le mouvement et elle est à fond et elle regrette de ne pas être là ce soir par exemple, mais qui en même temps est un peu peinée parce que le midi il faut qu'elle revienne du fait du mouvement, elle revient chercher son enfant, et en fait c'est un surplus de fatigue, mais ça n'empêche qu'elle soutient le mouvement et ça fait du bien aux agentes de voir ça, et c'est une belle mobilisation.
Ça peut être aussi bien les parents, les instits, les directrices, voilà, n'importe qui. La seule chose, c'est que vous venez derrière l'enceinte, d'accord, sinon il y a un Larsen. Vous pouvez donc venir, donc intervenir, et donc là aussi va faire état finalement de vos réactions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou non? Ou on lance la musique? Ça y est, j'ai un parent.
En effet, alors moi je débarque complètement, je suis parent d'élève à l'école à Villejean. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà un regroupement de parents. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui ont fait une réunion en Zoom par rapport à tout ça il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il y a d'autres parents dans la vie en général là ou pas, d'école? Vous pouvez pas venir par là, genre venez devant peut-être, je sais pas. Et juste qu'on puisse peut-être continuer à s'organiser collectivement, c'est pas souvent qu'on est tous ensemble.
Moi je m'appelle Rachel, je suis à SEM depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans plusieurs écoles à Rennes, actuellement ça fait 5 ans que je suis à l'école maternelle Villeneuve, rue Jean-Guinet, en classe de moyen grand.
Est-ce que c'est la première fois que vous vous mobilisez dans votre carrière ?
Oui, c'est la première fois là, aussi durement. Parce que c'est très injuste ce qui nous arrive. Nous, on a connu une collègue absente beaucoup l'année dernière. On en a toutes souffert. Épuisement professionnel, des douleurs musculo-squelettiques, du quotidien à 100 à l'heure, presque à devenir un peu brusque avec les enfants parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être à l'écoute, on n'a pas le temps de faire un travail de qualité. Et puis, sous pression tout le temps aussi, quoi.
L'absence de cette collègue, ça a quelle répercussion ensuite sur les équipes ?
Elle était rarement remplacée et du coup, il y a eu un emploi du temps de mise en place sur les 3 ASSEM restantes sur l'école. Et moi particulièrement, en fait, j'avais à charge 2 classes de moyen grand. Donc mon emploi du temps était découpé en heures pour pouvoir pallier à l'absence de ma collègue et je devais me promener toute la journée sur les 2 classes.
Est-ce qu'il y a eu une personne justement de ce pool de remplacement qui est venue ?
Non, parce que comme il restait plus que 15 remplaçantes sur ce pool, au vu du nombre d'ADSEM, on est je crois 256 ou 257, et ben c'est pas possible, c'est ingérable en fait au niveau des remplacements.
La ville de Rennes, elle reconnaît que le pool ne fonctionnait plus, qu'on est arrivé un peu à saturation, et donc il y a un choix de réorganisation. Un peu complexe. Pour vous, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est des embauches, en fait, des effectifs supplémentaires ?
Nous, on demande une chose, en fait. La ville de Rennes est découpée en 6 antennes. On demande qu'il y ait 5 ADSEM itinérantes par antenne. Donc, il faut qu'ils fassent 30 embauches pour qu'on roule correctement sur les remplacements. C'est notre demande. Alors, ils nous disent qu'ils ont du mal à trouver du personnel qualifié. Mais de toute façon, vu la façon dont on est traité par les collectivités, je peux comprendre que les gens n'aient pas très envie de s'engager dans ce métier. Et notre métier a beaucoup évolué en fait. Moi je l'ai remarqué en l'espace de 20 ans. On a multiples casquettes et on a des responsabilités de plus en plus importantes dans les classes pour aider la maîtresse dans la pédagogie, dans le travail qu'elle met en place avec les élèves. Mais c'est un métier merveilleux en fait. Pour rien au monde, moi personnellement, je changerais de métier. Mais il ne faut pas qu'on laisse mourir les ADSEM et qu'on nous maltraite, parce que là, ça va devenir de la maltraitance, en fait. On est indispensable, en fait. Une école maternelle ne fonctionne pas, une classe de maternelle ne fonctionne pas sans une ADSEM. Ce n'est pas possible.
Est-ce que je peux vous demander le salaire d'une ADSEM, si ce n'est pas indiscret ?
Alors, moi, je travaille à 80%, j'ai 20 ans d'ancienneté, je touche 1560 euros par mois.
La mobilisation, elle est annoncée pour durer jusqu'aux vacances d'été, jusqu'au mois de juillet. Vous, vous allez rester mobilisés autour de vous, les collègues, elles le sont aussi. Enfin, oui. C'est vraiment un mouvement général ?
Oui, parce qu'on est très en colère, là. Tout ça, ça a été fait derrière notre dos et annoncé lors des conseils d'école. On a eu la bonne surprise de savoir ça. Nous, c'est la directrice de l'école qui nous l'a annoncé.
Vous avez le soutien des parents sur votre école ?
Oui, oui, oui. On a le soutien des parents, ils tractent, ils mettent des affiches dans l'école et oui, oui, on a un grand soutien des parents.
On vous suit comme d'habitude. En tout cas, merci encore au soutien de tous les parents, de tous les instituts, de tous les directeurs et des enfants, hein, qui est l'avenir de notre ville.
C'est à nous de porter vos revendications. Est-ce qu'il n'y a pas une ASSEM qui viendrait prendre la parole de tout le monde et qui viendrait clairement exposer ce que vous souhaitez pour que ce soit vos revendications qu'on soutienne ? Voilà.
Bonsoir à toutes. Alors moi je suis ADSEM à l'école Pasteur. Je m'occupe cette année d'un enfant autiste lourd et je dois en plus gérer à côté mon travail quotidien. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc moi j'ai une idée de revendication pour aller plus loin encore. C'est de demander quand est-ce qu'on aura des renforts pour tous les cas d'enfants comme ça en difficulté qu'on doit gérer en plus de tous les enfants de notre classe.
Education. 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 Education.
On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut quoi? Ça pleut de la joie. Ça pleut ici. Ça pleut chez moi. Qui l'eût cru? Moi je le crois. Elle est venue jusqu'à mon toit. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut tant, tant mieux pour moi. Ça pleut tellement qu'elle me nettoie. Mais qu'elle me remplisse, qu'elle me noie. Tant qu'elle pisse, je la reçois. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Parce que je pue, parce que je suis sale, parce que je sue, parce que c'est mal, parce qu'il n'y en a plus, parce que je râle. Elle est bienvenue, moi je la vale, vale, vale.
Ça pleut, nous dit Mathieu Bogarde sur Canal B. C'est un morceau à retrouver sur l'album éponyme sorti en 2012, le sixième des huit disques créés par ce chanteur et musicien français depuis le milieu des années 90. Sur ce disque, des titres présentés et essorés même devant le public de la Java, une salle parisienne. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On va poursuivre et terminer avec non pas une mais deux recommandations pour le week-end. Et pour les recommandations du jour, on commence par aller faire un tour à BD, c'est à 20 km au nord-ouest de Rennes, où l'association ACS pour Armorique Cactus Succulente organise un salon de plantes exotiques. Ça a l'air d'être the place to be puisqu'il y a eu 3000 visiteurs l'année dernière sur le week-end. Cette année, rendez-vous samedi 10 de 14h à 18h30 et dimanche 11 de 10h à 18h à chaque fois à la salle polyvalente de BD où le public pourra trouver 40 stands d'exposants professionnels et amateurs. Alors on nous promet des codes, des sempers vivum, des frangipaniers et autres curiosités. Pour plus d'infos, il y a le site armorique-cactus-succulente.com. Deuxième conseil, c'est d'aller faire un tour au festival Simple comme Bonjour, une proposition de l'association Entourage, une structure qui crée du lien entre personnes à la rue et habitants d'un même quartier et qui invite cette fois le public place du Parlement dimanche 11 juin de midi à 18h. Au cœur de cet après-midi, un sujet, la lutte contre l'exclusion sociale des personnes en situation de grande précarité. Et en plus d'Entourage, on retrouvera Bulle Solidaire, Utopia 56, Le Refuge, Gamelle Pleine, Le Chien Tête en Bas et puis La Cloche. Le public pourra découvrir avec toutes ces associations des ateliers bien-être, un atelier fresque, un autre yoga ou encore une braderie solidaire, mais aussi un tournoi de palais breton et une scène ouverte pour la couleur festive. Pour plus d'infos, il y a le site et l'application entourage.social.
La
Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.